Bonsoir. Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS en sigle. Il s'est tenu ce jeudi à Kinshasa la réunion sur la réforme du Conseil d'administration nationale du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Cet organe assure l'orientation stratégique et la surveillance de la gestion des fonds en appui au PDRCS. Le coordonnateur provincial du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu ont pris part à cette réunion d'analyse, ainsi que les représentants des cinq pays contributeurs, à savoir la Suède, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Norvège et la Grande-Bretagne. Après 2 ans d'existence, 3132 miliciens se sont rendus et 1686 démobilisés dans les provinces du Nord et Sud Kivu, Maniema, Tanganyika et Ituri. 2 ans après sa création, quelles sont les réalisations du PDDRCS? Ces réalisations suffisent-elles à mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC? Dialogue entre Congolais, en parlant ce soir avec le coordonnateur du PDDRCS, Tourmi Tamwe Ushindi, avec moi dans ce studio. Monsieur le coordonnateur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Bukavu Sud Kivu, vous nous suivez sur la 95.3. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou sur Canal Plus, Channel 572, via TV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
En Ituri, plusieurs miliciens de Codeco réfractaires au processus des paix ont été neutralisés au cours des opérations FARDC MONUSCO lancées lundi à Masikini dans le secteur de Walendu Djati, voilà, territoire de Djougou. Les deux armées ont également réussi à déloger ces rebelles de cette entité considérée comme l'un de leurs bastions. Le porte-parole des FARDC en Ituri parle d'offensives conjointes des traces des groupes armés qui s'attaquent aux populations civile au mépris des engagements qu'ils ont pris dans les cadres du processus de paix initié par le gouvernement provincial. Le point avec Jean-Claude Doki.
C'est depuis la matinée de lundi que les FARDC, appuyés par les casques bleus de la MONUSCO, ont investi Masikini, un village situé à 7 km du chef-lieu de ce territoire. Objectif, déloger de cette localité les miliciens de la Codeco qui s'attaquent aux populations civiles. Après plusieurs heures de combat, rapportent nos sources, ces miliciens et leurs dépendants se sont enfuis dans la forêt, permettant aux FARDC de prendre le contrôle du village Masikini. Le bilan dressé par des sources de sécurité fait état de plusieurs miliciens tués et 11 autres gravement blessés. Du côté des forces loyalistes, un militaire est tombé sur le champ de bataille et 2 autres blessés. Ces derniers ont été évacués de Fataki à Bounia par l'hélicoptère de la MONUSCO pour être pris en charge. D'après les acteurs de la société civile, ces affrontements ont entraîné un déplacement d'au moins 400 ménages fuyant la zone de combat pour se réfugier à Ar, Boudjou, Pico ou encore Chida, proche du centre commercial de Fataki. Tous nos efforts pour avoir la réaction du porte-parole des FADC en Ituri n'ont pas abouti. Bounia, Jean-Claude Lucky, Guilet, Radio Capi.
Merci Jean-Claude Loki pour ce reportage. Tony Tambwe Ushindi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Les groupes armés, on en parle encore et encore. Le programme que vous coordonnez d'abord, d'ailleurs, a entre autres comme mission le désarmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. 2 ans après la mise en place de ce programme, qu'est-ce qui a déjà été fait pour mettre fin au phénomène groupe armé en RDC?
Merci beaucoup, madame. Permettez-moi également de saluer les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Les groupes armés en RDC, c'est une question d'actualité, mais c'est aussi une question de depuis 1960, une question d'hier, mais une question aussi d'aujourd'hui et de demain. Nous devons savoir que ce mouvement des groupes armés n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps que nous avons connu les groupes armés. Mais je ne vais pas aller plus en détail par rapport aux années passées avec le phénomène Moulélé et consorts. Mais revenons d'abord au processus de la réunification du pays. Depuis 2003, nous avons connu dans ce pays le DDR 1, le DDR 2, le DDR 3 et le DDR 4. Il est important ici de savoir pourquoi il y a eu tous ces DDR et pourquoi il y a eu le DDR 4 aujourd'hui que nous appelons le PDDR 16. Le PDDR 16, c'est la leçon des DDR précédents. Ça veut dire qu'on a tiré les leçons des anciens DDR et nous avons intégré des innovations qui sont des correctives par rapport aux problèmes qui ont été soulignés par tous ceux qui ont participé dans les états des lieux par rapport aux anciens programmes.
Quelles sont ces innovations ?
Dans les anciens programmes, il était question d'abord de démobiliser tous les groupes armés et tenir seulement compte du fait que la personne a été dans une milice ou dans un groupe armé et qu'il fallait les désarmer, les démobiliser et l'insérer. Mais ici, nous sommes rendus compte que ce programme n'a pas suffi parce que nous sommes aujourd'hui à la présence de tous ces groupes qui ont été démobilisés. La plupart d'entre eux sont encore revenus, la plupart des ex-combattants qui sont passés par le programme du DDR 1, DDR 2, DDR 3, ils se retrouvent encore dans la brousse et ils sont encore en train de ressortir dans le programme du DDR 4. Alors, les innovations qu'on a apportées, c'était de comprendre d'abord quelles sont les causes profondes des groupes armés. Quelles sont les causes? Et ici, permettez-moi que je vous parle brièvement de ces causes qui ont été identifiées. Nous avons identifié 10 causes principales. La première...
Vous n'allez pas citer les 10 causes, on va prendre l'essentiel. Hein?
Ah, je voulais vous parler de ces 10 causes. Mais l'essentiel, d'abord, qu'il faut comprendre...
Les plus importants.
Le groupe armé, aujourd'hui, dans le programme, sont l'émanation des communautés. Des frustrations, sont l'émanation des conflits liés aux entités territoriales, le conflit de succession de pouvoir coutumier, des conflits fonciers, des conflits miniers, des conflits administratifs, des conflits tribaux ou identitaires, les ingérences extérieures, mais aussi la pauvreté. Voilà brièvement les causes principales. Alors, pour traiter, il a été convenu qu'il ne faut pas seulement s'occuper du combattant, mais il faut aussi s'occuper des communautés. C'est ainsi que vous avez dans ce programme 3 dimensions. La première, c'est la dimension du désarmement et la démobilisation. Et la deuxième dimension, c'est la dimension du relèvement communautaire. Et la troisième dimension, c'est la dimension de la stabilisation et relance économique et sociale dans les zones post-conflit. Et nous sommes arrivés à ces conclusions qui nous ont amenés à mettre en place la stratégie nationale. Et de la stratégie nationale, nous sommes arrivés également à mettre un plan opérationnel provincial. Et ce qui a suivi, c'était maintenant de voir quels sont les sites de désarmement, quels sont les sites de démobilisation, et nous avons validé tout cela dans 5 provinces. Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika. Et nous sommes en train de travailler maintenant pour l'année prochaine pour ajouter les 3 autres provinces qui sont sur notre agenda, notamment le Kassai central et le Kassai oriental.
Voilà. Alors là, ce sont les innovations, mais en deux ans, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour mettre fin au phénomène groupe armé?
Très bien. Comme je disais, que les groupes armés sont l'émanation des communautés, le premier travail que nous avons fait, et qui y a porté en tout cas des fruits, c'était de s'occuper de problèmes qui sont liés effectivement aux groupes armés. Quelles sont les causes profondes? Alors, nous avons identifié les causes. Après avoir identifié les causes, nous sommes partis dans des communautés. Et nous avons instauré le système de dialogue démocratique. Et vous allez vous rendre compte que nous avons eu plusieurs dialogues, malgré aujourd'hui que les gens disent oui, le peuple de DRCS n'a pas fait quelque chose, mais les gens qui sont de l'Ituri, qui connaissent les degrés, qui ont connu les degrés de la violence dans l'Irum, dans le territoire de Ndjougou, savent que les dialogues qui ont été menés par le gouvernement provincial avec le peuple de DRCS, avec les communautés de la société civile, ont porté des fruits. Par exemple, dans le territoire d'Irum, nous avons eu des dialogues avec la communauté Bira. Et immédiatement, nous avons vu les FRPI et les FPIC revenir et ils se sont engagés au processus. Et les violences ont diminué. Je suis en train de le dire.
Oui, mais ils sont retournés dans la brousse.
Ceux qui se sont engagés ne sont pas retournés dans la brousse. Ils sont à Diango. Et ceux qui ont été réfractaires, il y a des causes pour cela. Dans le territoire de Ndjougou, avec la communauté Lori, qu'on appelle la communauté Lendou, nous avons eu un dialogue à Kwandroma. Et ça a porté des fruits. Les violences ont diminué. Et là, il y a des causes. S'il y a certains mouvements réfracteurs qui sont revenus, parce que nous savons le Codeco principalement, n'est pas seulement une seule composante. Il y a plusieurs. Je vous dis que dans Codeco, il y a 9 groupes à l'intérieur. Et c'est ça, c'est très important. Le dialogue que nous avons eu avec la communauté Hema nous ont permis d'identifier deux groupes importants, notamment les Zaïr et les Mapi. Et nous avons toujours des concertations avec ce groupe. Nous avons eu des concertations avec, dans le groupement Walindu Bindi, où nous avons encore une fois parlé avec le responsable des FRPI. Si je vais au sud Kivu, au nord Kivu, dans le Tanganyika, dans le Maniema, nous avons eu ces dialogues. Et je peux vous dire, par rapport aux mois qui viennent de se découler, je peux vous rassurer que les violences ont diminué sensiblement.
Sensiblement, alors que tous les jours, il y a des populations civiles qui sont massacrées par ces miliciens. Tous les jours, on massacre les populations civiles.
Oui, madame, je crois qu'ici, nous parlons du PDDRCS. Le PDDRCS est un programme civil, n'est pas un programme militaire. Nous devons être conscients d'abord de cela. Le PDDRCS n'a pas la vocation d'aller mener les opérations militaires sur le terrain pour sensibiliser. Ici, la sensibilisation que nous menons, elle est communautaire et la reddition est volontaire. Ce sont là les principes du DDR. Mais nous ne sommes pas une organisation qui doit aller mener les opérations militaires. Mais nous disons que le PDDRCS marche avec d'autres politiques du gouvernement. Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez la justice, vous avez toutes les politiques du gouvernement doivent être mises à contribution pour que le PDDRCS puisse réussir.
En 2 ans d'existence, 3132 miliciens se sont rendus et 1686 démobilisés dans les provinces du Nord, Sud, Nord et Sud Kivu, Maniema, Tanganyika et Ituri. Vous pensez que c'est un bilan positif?
Pour ma part, c'est déjà un bon départ du fait que le groupe armé ont quand même entendu le message du chef de l'État. Maintenant que nous avons le plan opérationnel, et ce plan opérationnel doit commencer à être mis en application maintenant. C'est le moment où nous allons actionner toutes les machines en tenant compte effectivement des moyens financiers et logistiques, parce que la plupart des groupes armés ne sont pas dans la ville. Les groupes armés sont dans les campagnes où il n'y a pas de route, où il n'y a pas également parfois d'abri. Mais il faut les atteindre, il faut les sensibiliser. Imaginez-vous, vous quittez de Bukavu jusqu'à Shabunda, pas même dans la ville, vous allez voir qu'il gloube là-bas. C'est toute une logistique qu'il faut, et puis les faire sortir de là. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'encourager un DDR communautaire qui permet à tous ces combattants de sortir, mais également être réintégrés dans leur propre milieu d'origine. Évidemment, après une forte sensibilisation et une réinsertion.
Alors, vous avez parlé des moyens financiers et logistiques. Est-ce que vous en avez?
Madame, d'abord, nous sommes une organisation, nous sommes un service de l'État. Nous sommes un service public de l'État attaché à la présidence de la République. Jusqu'à présent, nous fonctionnons avec le moyen du gouvernement de la République.
C'est suffisant pour le travail que vous faites?
Nous ne disons pas que c'est suffisant. Il n'y a jamais eu de moyens suffisants, parce que même le gouvernement lui-même, pour fonctionner, il a toujours besoin de moyens. Mais ce que le gouvernement nous donne nous permet de mener les activités de sensibilisation, mais également nous comptons sur le partenariat que nous avons avec toutes les organisations avec lesquelles nous sommes en train de travailler. Et nous disons que le moyen, la facilité pour ce programme et pour ce partenariat, c'est d'avoir un cadre opérationnel. C'est-à-dire, il faut avoir le plan opérationnel pour lequel nous allons maintenant rendre le projet plus bancable, pour que ceux qui doivent nous aider puissent nous appuyer en tenant compte des projets qui existent. Il y a un temps, on n'avait pas ce plan-là. Mais nous avons aujourd'hui le plan qui a été validé. Ce qui fait que, et pour le fonds de cohérence pour la stabilisation, et pour la Banque mondiale, et pour l'Union européenne, et d'autres organisations, que ce soit la coopération japonaise et d'autres américaines, il n'y a plus d'excuses pour dire, voilà, vous n'avez pas de plan, nous ne savons pas, nous allons intervenir où, nous allons amener comment, nous allons mener ces opérations. Nous avons fait ce travail avec eux et nous avons les places opérationnelles.
Et vous attendez le financement?
Le financement est du gouvernement, parce que le gouvernement a déjà commencé, et des partenaires.
Alors on va prendre ces premiers auditeurs qui nous appellent depuis la ville de Bukavu, je pense. Il s'appelle Jado Ingilima, me signale la réalisation. On va le prendre, on va écouter ces différentes questions, puis on revient dans ce studio.
Jado Ingilima, à partir de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Deux ans après sa réaction, deux ans après sa création, le PDDRCS ne mérite pas un bilan si maigre comme celui dressé par son coordinateur national. 3132 miliciens qui se sont rendus et 1686 mobilisés pour 5 provinces ne représentent rien au vu de la manière dont le lancement s'était fait avec pompe. Monsieur le coordinateur, qu'est-ce qui explique cette faible réalisation dans les provinces précitées alors qu'elles sont les bastions des groupes armés? Quelle est la stratégie mise en place par les PDDRCS pour arriver à convaincre les groupes armés à se rendre? Je pense que les PDDRCS devraient préalablement faire une étude sérieuse des causes de l'existence des groupes armés avant de trouver des solutions adéquates. Dans le cas contraire, cette structure sera en train de faire des navettes en ville pour une visibilité des coordinateurs provinciaux qui, pour la plupart, seraient candidats aux différents échelons des élections à venir et les fonds alloués seraient utilisés pour répondre aux ambitions politiques de ces animateurs.
Monsieur le coordonnateur Tommy Tamboué, comment vous répondez à cet auditeur du Bukavu qui se demande qu'est-ce qui pourrait expliquer cette faible réalisation dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, des provinces où on retrouve plusieurs groupes armés. Comment vous lui répondez?
Merci beaucoup. Première chose, je voudrais le remercier. C'est un compatriote qui a exprimé son point de vue, tout à fait normal. Mais je voudrais d'abord le rassurer que le bilan PDDSS n'est pas aussi maigre qu'il le croit. Tenez, lorsque le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris ses fonctions en 2019, presque dans tous les villages, le groupe armé s'était rendu. Presque, je dis bien, presque dans tous les villages, le groupe armé s'est rendu. Mais à un moment donné, il n'y avait pas de structure pour les accueillir. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, si nous avions tenu compte, si le PDDSS était déjà créé, et si le moyen était mis à la disposition du PDDSS, je pense qu'on parlerait aujourd'hui de 200 à 300 000. La plupart de ces gens sont rentrés dans leur communauté. Ils sont rentrés en brousse. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Que ce soit à Chabunda, que ce soit à Uvira, à Fizi, que ce soit à Beni Lubero, que ce soit dans Djougou, que ce soit, il y a eu cette effervescence. Et il disait, il n'y a plus de raison de rester de la brousse, nous sortons. C'est vrai, on les a vus. En 2021, lorsque nous avons été nommés, nous avons trouvé le groupe armé en train d'attendre, certains en train d'attendre dans leur village, le PDDSS. Et lorsqu'ils sont arrivés, certains ont été démobilisés par la MONUSCO. C'est par le DDR MONUSCO. C'est connu. Alors, nous ne pouvons pas toujours écrire tous ces chiffres-là et dire, voilà, nous avons autant, nous avons fait ceci, Il y a ceux qui ont été démobilisés bien avant par la MONUSCO, par le DDR MONUSCO. Mais ce que nous avons trouvé à Mubambiro, dans les sites, nous les avons démobilisés officiellement. Ce que nous avons trouvé, ceux qui sont venus, se sont rendus dans les sites à Diango, ils ont été démobilisés. Et retenez une chose. Le désarmement, c'est une chose. La démobilisation, une chose. La réinsertion, autre chose. Et la réintégration, autre chose. La plupart de ces programmes ont échoué, ont réussi à faire le désarmement, ils ont réussi à faire la démobilisation, mais ils ont péché par la réinsertion et la réintégration. C'est là le véritable problème. Ce n'est pas seulement le problème d'hier, mais c'est un problème aussi d'aujourd'hui. Nous avons tous ceux qui ont été démobilisés à Rumangabo, démobilisés à Mubambiro. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, chercher les moyens, le même qu'ils nous ont promis. Dès que nous commençons, après la démobilisation, nous allons amener les moyens, nous allons travailler. Ils ont même parlé de 250 millions de dollars. Mais à un moment donné, aujourd'hui, ils sont encore en train de travailler, à retoucher ceci, retoucher cela. Ce n'est pas un problème d'individu. C'est un problème d'organisation structurale. Autre chose, élément important qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que parmi aussi les causes, il y a la dimension politique. La plupart des groupes armés sont l'émanation des communautés. La plupart des groupes armés, quand vous allez les étudier, ils dépendent, ils vivent
ils ont leur soutien même de la capitale. Les chefs des partis politiques, les députés nationaux, le ministre, nous avons trouvé qu'ils sont aussi parmi les acteurs principaux qui maintiennent le groupe des armées dans la brousse. Et aujourd'hui que nous sommes à la veille des élections, vous pensez sincèrement que ces tireurs de ficelle souhaiteraient que le groupe des armées sorte, alors que ce sont les petits de Moukonfia qui vont leur faciliter, bloquer celui-là, la route pour que lui passe seul. Ce sont les éléments sur lesquels nous sommes en train de travailler. Si les gens pensent que c'est seulement le PDDSS, le PDDSS n'a pas de prison, n'a pas de cachot, son plus grand instrument, c'est dénoncer. Mais maintenant, quand nous dénonçons, combien sont arrêtés? C'est ça aussi la question. Combien de ces députés qui sont en train d'entretenir le groupe des armées sont arrêtés? Combien des hommes politiques qui sont en train d'entretenir le groupe des armées sont entrés? En même temps, si je peux aller plus loin, il y a une nouvelle dimension. Le Ouazalendo aujourd'hui. Vous pensez que ces combattants qui sont à Rutshuru, Masisi, et qui voient l'M23 entrer d'attaquer leur village, en train de le récupérer, vont-ils céder et venir à la réinsertion, à la réintégration, pendant que leurs entités sont en train d'être attaquées? Je pense que c'est une question de précision, c'est une question de conscience. Nous sommes tous des Congolais, mais nous ne pouvons pas faire le contraire. Nous sommes appelés à un moment donné, moi-même comme citoyen, j'ai dit, je suis aussi un Ouazalendo. Je ne peux pas accepter que mon pays soit attaqué par une armée étrangère. Et moi, j'ai dit, bon, ok, je suis chargé de désarmement. Non, la première des choses, c'est de dire, ok, je me bats pour mon pays, et par la suite, nous désarmons.
Alors, les auditeurs, les internautes sont aussi très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi et même sur la chaîne YouTube de Radio Okapi. On va prendre quelques réactions des internautes. Il y a Lewis Kaba qui nous écrit depuis Bujumbura au Burundi, qui vous pose à vous cette question. Monsieur le coordonnateur Tony Tambouye, pensez-vous que le PDDRCS est la solution pour mettre fin à la prolifération des groupes armés en RDC?
C'est la voie ultime, c'est le passage obligé et c'est la solution, parce que le PDDRCS intègre le dialogue démocratique, la recherche de causes profondes, la justice transitionnelle, le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, la résilience des communautés, la réintégration, mais également la stabilisation. Les éléments clés à la restauration de l'autorité de l'État, à la paix, mais également au développement du pays. Le problème n'est pas dans la structure, mais le problème aujourd'hui, c'est la mise en commun de toutes les politiques du gouvernement pour réussir ces défis-là de la prolifération de groupes armés. Ça veut dire, lorsqu'il s'agit d'utiliser les bâtons, il faut l'utiliser par les services appropriés. Si ce sont les services de renseignement, si c'est l'armée, si c'est la police qui est appelée d'utiliser les méthodes coercitives, il doit l'utiliser à ce moment-là. Comme en Ituri, on vient de faire. Si le Codeco fait des actions de sabotage de l'autorité établie, alors l'armée a l'obligation d'agir. Les services de l'ordre ont l'obligation d'agir. Là où il faut dialoguer, il faut dialoguer. Là où il faut punir, amener les responsables, les semeurs de troubles, les tireurs de ficelles, s'il faut les amener en prison, il faut les amener. Mais ne demandez pas tout cela au PDDRCS, parce que le PDDRCS, c'est un outil de coordination de politique publique.
Un autre auditeur nous écrit depuis Goma, il s'appelle un autre internaute, je voulais dire, il s'appelle Landry Fikiri, depuis Goma dans la province du Nord Kivu. Nous citoyens lambda n'avons jamais vu un seul groupe armé qui s'est démobilisé ou désactivé sur terrain. Pourtant, connaissons bien que c'est l'Est où pullulent ces groupes armés. S'il faudrait des témoignages, les populations de l'Est de la RDC seraient les plus consultées et considérées, et l'impact du PDDRCS en RDC n'est pas une structure dont le bureau serait à Kinshasa, plutôt dans l'est de la RDC pour raison des proximités du champ d'action. Vos bureaux doivent être dans la partie est selon cet auditeur.
Je crois que ce soit un manque d'informations. Nous avons des bureaux dans 5 provinces. Nous avons des bureaux dans les territoires. Si vous allez à Beni, comme il est du Nord Kivu, s'il va à Beni, il va trouver déjà un bureau du PDDRCS à Beni, à Lubero. Quand il va à Kassando, il va, s'il connaît le Nord Kivu, s'il va à Kassando, il va trouver qu'il y a même un centre où il y a plus de 250 rendus. S'il va à Mambangu, à Beni, il va trouver cela. S'il va aujourd'hui à Kalehe, dans le haut plateau, il va, comme il est du Nord Kivu, il doit savoir que Mubambiro a régorgé à un moment donné 1700 et combattants qui ont été démobilisés et qui sont en attente de la réinsertion aujourd'hui.
Et voilà. Pour le moment, ils sont où? Ils sont dans les centres de transit?
Ils sont dans des communautés en attente de la réinsertion et réintégration. Et nous sommes en train de préparer. Il y avait déjà de l'argent, était déjà là. Les fonds de cohérence avaient déjà mobilisé des millions. Mais ce sont des informations qui ne sont pas connues peut-être. Des millions.
Parce que vous
dollars.
Ne les partagez pas, parce que vous ne communiquez peut-être pas suffisamment.
Bon, il y a aussi des questions sensibles là-dessus. Le Nord Kivu aujourd'hui vit une situation dans laquelle on ne peut pas s'hasarder à communiquer n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, à Ngungu, il y a un centre qui a été construit par la MONUSCO et qui a été cédé au PDDRCS. Vous allez à Miriki, vous allez dans le territoire de Lubero. Nous avons organisé, il n'y a pas longtemps à Goma, une table ronde. Il y a les routes qui ont été construites par une ONG XPR sous le financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation et qui ont été cédées au PDDRCS. À Kirumba, nous sommes en train de travailler et toutes ces actions, et ne voyez pas. C'est ça le problème.
Alors, on va reprendre les auditeurs sur le standard. Voilà. On me signale qu'il y a un autre auditeur qui appelle depuis la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. On va l'écouter.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le maigre réalisation de ce programme, 2 ans après son existence, est plus presque que ce processus connaît beaucoup de problèmes, notamment certains animateurs qui ne font pas l'unanimité. Certains groupes armés n'acceptent pas ces animateurs, et du coup la machine reste bloquée. Il est difficile que ces réalisations suffisent pour mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC. Je pense que ce programme ne va pas connaître le succès comme les autres programmes de démobilisation, désarmement et réinsertion qui ont englouti des millions de dollars sans résultat espéré. Pour résoudre la problématique des groupes armés en RDC, il faut lire tous les rapports des organisations unies et d'autres ONG locales qui ont publié plusieurs rapports et pistes de solutions sur ce sujet. Autrement, c'est du passe-temps.
Monsieur le coordonnateur, vous avez suivi cet auditeur. Il pense que ce programme ne sera pas différent des précédents qu'on a eu dans le...
Il est différent. Et ces rapports des organisations dont il parle, ces mêmes organisations font partie du groupe de travail opérationnel du PDDRCS. Que ce soit l'UNICEF, que ce soit la MONUSCO, que ce soit les organisations des droits de l'homme, tous travaillent avec le PDDRCS. Alors, ce rapport, quel autre rapport qu'il publie aujourd'hui qui n'est pas pris en compte alors que nous avons des réunions hebdomadaires? Aujourd'hui, nous avons eu des grandes réunions avec les bailleurs. Non. C'est tout simplement, les gens veulent voir des actions, mais le PDD cesse ne pas les DDR classiques dans sa composition, dans sa mission et puis dans son orientation. Le PDD cesse à trois dimensions et nous ne pouvons pas faire la même chose comme a été fait avec le DDR 1, le DDR 2, le DDR 3. Aller démobiliser pour désarmer pour démobiliser et par la suite, ils sont où? C'est nous, ils sont encore avec nous. C'est même que vous dites, ils ont les succès. Oui, les succès, ce sont les mêmes que nous avons aujourd'hui. Ils sont partis où? Alors, la question des animateurs, on ne peut pas faire l'unanimité. Même dans la famille, on ne peut pas avoir l'unanimité. Les enfants sont nés du père et de mère, ils sont à 5, à 6. Vous allez voir, il y a deux qui sont souvent ensemble, deux autres ou une autre. Dans la grande famille, on ne peut pas tous avoir l'unanimité. La plupart des groupes armés qui sont aujourd'hui ne peuvent pas dire qu'ils tous, même ces groupes armés, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont tous unanimes. Non, l'unanimité n'existe pas. Ce sont les politiciens, par contre, pour leurs intérêts, qui favorisent et qui essayent de parler. Dans ce pays, même ceux qui sont au gouvernement, vous lui parlez aujourd'hui, des animateurs, mais pourquoi on ne conteste pas ceux qui sont au gouvernement et qui sont par exemple qui sont passés par des rébellions? Ils sont nombreux, qui sont au Parlement, qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont au Sénat, qui ont dirigé. Le président, je vais vous donner même quelque chose qui choque, et c'est très important que j'en parle. Le président. Le feu président Laurent Désiré Kabila, rebelle de son état, avait dit, 6 mois plus tard, il a pris le pouvoir ici à Kinshasa, il est devenu président de la République, reconnu, mais tout en étant un ex-rebelle. Et par la suite, quand il est mort, on l'a consacré héros national. Son fils, qui était chef d'état-major général, est devenu président de la République, après avoir été dans la rébellion. Il a dirigé 18 ans, et après, aujourd'hui, vous savez, il est président, il est sénateur.
Vous encouragez les jeunes à adhérer, à faire la rébellion pour être promu après?
Je ne les encourage pas. Je ne les encourage pas. Je parle des faits et de la ségrégation, même de la séduction. Permettez-moi que je parle de ces termes-là. Parce que, aujourd'hui, que ce soit dans le gouvernement, il y a même des anciens chefs rebelles condamnés et même sortis, mais on ne parle pas d'eux. Mais si les gens parlent, par exemple, de ma personne, qu'est-ce que j'étais dans cette rébellion? Vous ne voyez pas que c'est purement quelque chose qui est monté? Et vous allez voir que ce n'est pas dans toutes les provinces. Moi, je vais souvent à Ituri, mais jamais on me parle de ces choses. Et ça a commencé seulement au sud Kivu, parce qu'il y a de l'intérêt. Et je vais voir maintenant, parce que l'heure de la vérité a sonné. Ceux-là qui parlent de moi aujourd'hui, je vais leur voir maintenant comment eux-mêmes vont battre campagne, parce que nous allons leur dire aussi la vérité.
Alors, monsieur Tommy Tambo-Shindi, il y a un auditeur qui avait posé la question de savoir s'il y avait une stratégie mise en place par le PDDRCS pour arriver à convaincre les groupes armés à pouvoir se rendre. Vous n'avez peut-être pas répondu à cette question, mais moi je vais ajouter celle de savoir est-ce qu'il y a des projets intégrateurs qui peuvent pousser ces miliciens ou ces combattants à déposer les armes.
Je vous ai parlé des plans opérationnels provinciaux. Les territoires ont fourni déjà leurs plans opérationnels. Les provinces ont intégré ces plans opérationnels. Maintenant, la phase qui suit, c'est la matérialisation de ces plans en véritable projet. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a des projets qui existent pour chaque province et pour chaque territoire. Voyons maintenant ce que nous allons faire. Dispo, comme nous terminons, il n'y a pas de promenade que nous faisons pour les coordonnateurs provinciaux, contrairement à ce qu'ils disent. Nous faisons du travail. Ils sont venus ici à Kinshasa. Ce n'était pas pour faire la visibilité des campagnes. C'était pour finaliser le plan opérationnel. et nous sommes fiers parce qu'ils ont travaillé pendant plus de 3 mois. Ils étaient en train de travailler, en train de tenir compte des avis des communautés, et maintenant ils sont venus finaliser leurs plans opérationnels. Nous les avons accompagnés par les experts et des Nations Unies et par le PDDSS. Maintenant, la phase qui suit, c'est la convocation du comité de pilotage pour que chacun puisse dire dans ce plan d'engagement combien moi j'amène pour que nous puissions aller ensemble. Parce que souvent, on a tendance à voir seulement le PDDSS. Le PDDSS, je viens de vous dire que c'est un instrument qui comprend plus de 15 ministères et de services publics. Et chaque ministère doit faire son travail. Et c'est ça. Pour avoir les résultats, ce n'est pas seulement le PDDSS comme structure qui doit le faire. C'est une combinaison de plusieurs fonds. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans tous les domaines du développement rural, et j'en passe. Donc, tous ces projets-là, ce ne sont pas des projets qui ne sont pas, qui viennent de la tête, ce sont des projets qui sont dans des ministères. Et nous travaillons avec ces ministères pour la mise en œuvre de ce projet. Nous sélectionnons des projets qui nous permettent effectivement d'arriver à absorber la question de groupes armés. Mais nous ne le faisons pas ça.
Alors, il y a beaucoup de questions qui vous sont adressées, Monsieur Tommy Tambwe. Mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. On va prendre quand même cette réaction de Gilbert Tchamuntu Bazinda, qui dit ceci: ce programme a montré ses limites. Ceux qui étaient à Mubambiro, on leur avait demandé de rentrer dans leur milieu respectif sans aucun kit. Ces anciens combattants ont contribué à la dégradation de la situation sécuritaire dans leur zone de retour en Ituri. Et le point focal, ils ont contribué à la dégradation de la situation sécuritaire dans leur zone de retour en Ituri. Le point focal a pris avec les fonds.
Faux et archi-faux. D'abord, celui qui parle n'a pas la connaissance. Mubambiro n'a jamais intégré les combattants venus de l'Ituri, ni de Maniema, ni d'autres. Le programme est communautaire. C'est un programme qui tient en compte les milliers dans lesquels les personnes sont venues. Ceux qui étaient à Mubambiro sont les originaires de Rutshuru, de Lubero, de Masisi et de Walikale. 2 millions de dollars ont été affectés par le fonds de cohérence pour la stabilisation. Et jusqu'à ils ont terminé la démobilisation, il y a eu le M23, la zone de retour pour laquelle les 2 millions devraient être affectés. C'était le Masisi, c'était le Walikale et une partie de Lubero uniquement. Cet argent n'a jamais été touché parce que personne ne va fouiller avec l'argent. C'est le fonds de cohérence pour la stabilisation. Il y a un fiduciaire, l'argent est logé à New York, c'est pas ici. Qui va fouiller comment?
On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle.
Je vais terminer en disant que c'est ceux qui sont en attente. Nous les avons fait partir parce que l'ennemi, le M23, était déjà à 15 km et il y a eu des bombes qui sont tombées sur Mubambiro. Le Conseil provincial de sécurité a estimé que leur vie était en danger.
Alors, en parlant du M23, moi j'ai une question à vous poser, monsieur le coordonnateur. Aujourd'hui, le M23 existe le dialogue avec le gouvernement congolais. Le gouvernement, de son côté, est catégorique. Pour le gouvernement, il faudra d'abord démobiliser ces combattants du M23 avant tout dialogue. La question que l'on se pose, qui prend en charge ces éléments du M23 pour leur démobilisation? Est-ce votre programme?
Merci beaucoup. Le processus de Nairobi et de Luanda a précisé qu'il faut d'abord un cessez-le-feu, deuxièmement un retrait,
précantonnement, cantonnement et demarrage de DDR. Nous avons reçu le mandat du gouvernement de préparer un DDR spécial au niveau du maniement et je vous informe que sur ce micro, sans peur d'être contredit, que le gouvernement avait débloqué 3 millions de dollars pour ce travail de préparer à Kindu. Ce travail a été fait à travers une agence et les travaux sont terminés presque à 90%. Mais aujourd'hui, est-ce que le M23 a accepté d'aller à Rumangabo? Non. Et il dit, je n'irai nulle part. Si ils acceptent ce principe d'aller à Rumangabo, de connaître les vétings pour savoir qui sont Congolais et qui ne sont pas Congolais, ils seront amenés dans les sites appropriés déjà aménagés et par la suite, le DDR va commencer pour eux. C'est un DDR qui est différent du DDR communautaire. C'est un DDR spécial pour eux et qui ne prendra pas beaucoup de temps. Donc,
qui sera sous votre supervision?
Après le mécanisme qui sont reconnus, c'est le PDDSS, il n'y a pas une autre structure. Après avoir connu le vetting au niveau de Rumangabo, après avoir connu, donc on a la base de données, on connaît qui sont Congolais, ils ne sont pas Congolais, nous allons prendre ceux qui sont Congolais, nous les amenons dans les sites appropriés pour le DDR, et puis la suite, c'est la réintégration de la communauté. Et ceux qui sont étrangers, nous avons des cellules, il y a le groupe de contact et de coordination, il y a le DDR MONUSCO, il y a le mécanisme national de suivi. Ils vont travailler avec le PDDSS pour le repatriement de ceci.
Alors, on va prendre très rapidement ce dernier auditeur. La réalisation m'a ajouté 5 minutes. Nous sommes déjà à 4 minutes. 4 minutes. On va écouter très rapidement ce dernier auditeur.
Clément Chaba, depuis le territoire de Lebo, dans la province du Kasaï. À mon humble avis, je trouve que cet organe n'a pas déjoué son rôle et ne joue pas convenablement son rôle parce que la gestion des fonds alloués à cette fin pose problème. C'est pourquoi cette réforme doit toucher toutes les structures impliquées, voire remplacer des personnalités dirigeantes de cet organe par d'autres. Et là, le gouvernement de la République est appelé à s'y impliquer afin que les choses puissent bien marcher.
Alors, je crois que vous avez déjà répondu ces questions. On va pas.
Oui,
on va
la pas... gestion. C'est quelle gestion? Est-ce que on vous a dit qu'il y a eu des détournements de fonds? Il y a eu des détournements de quoi? Il y a eu mauvaise gestion de quoi? Parce que le PDDSS n'est pas le fiduciaire ni gestionnaire de fonds qui viennent des partenaires. Les partenaires viennent avec leurs fonds et ils utilisent. Alors, nous travaillons avec le fonds du gouvernement qui sont contrôlés et par le trésor public et par les services de l'État qui sont attitrés. C'est absurde, je veux dire, de parler de mauvaise gestion des fonds sans savoir d'abord combien d'argent on a donné, sans savoir ils sont logés où. Voilà le problème.
En parlant d'argent, le gouvernement a donné combien d'argent, ah, c'est le coordonnateur
voilà. Voilà.
Le gouvernement a donné combien d'argent?
Le gouvernement, jusqu'à ce jour, continue à donner de l'argent. Vous savez, le secret de l'argent ne se donne pas au téléphone, ni à la radio. Mais si vous venez dans nos bureaux, nous allons vous montrer effectivement ce que nous avons reçu. Il y a le frais de fonctionnement et il y a le frais des opérations qui passe par le ministère de la Défense.
Pourquoi ça devrait être un sujet tabou, nous dire combien le gouvernement donne pour le programme PDDRCS?
C'est parce qu'il y a un organe concerné. Nous ne sommes pas ici au Parlement pour que...
Mais les auditeurs qui nous suivent ont envie de savoir.
Oui, mais je vais vous dire qu'il y a le fonds du gouvernement.
Combien il est dit? Combien?
Moi, je vous dis que ici, ce n'est pas le milieu où nous devons parler de cet argent.
Merci, monsieur.
Si vous voulez les avoir, nous allons vous donner.
On comprend que vous ne voulez pas nous donner le montant mis à votre disposition par le gouvernement. Alors, un dernier mot à tous ces auditeurs, à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger, hein, grâce à notre site internet. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, surtout ceux qui ne croient pas trop, hein, au programme PDD-RCS?
Je vais leur dire de faire confiance au président de la République, de faire confiance au gouvernement de la République, mais que le gouvernement est tenté de s'activer pour ajouter l'enveloppe afin de pouvoir mettre en œuvre les plans opérationnels provinciaux. Et les fonds ne seront pas... cette fois-là, nous sommes en train de travailler sur la décentralisation, donc les fonds vont aller directement à la base, là où il faut résoudre le problème directement. Et nous allons voir au prochain rendez-vous qu'est-ce qui sera fait exactement et le résultat auquel nous serons attendus.
Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur du PDD-RCS, Tommy Tambwe Ushindi, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné dans la préparation de ce magazine. Guy Maté, Donna Madimba, Hervé Voka, Clément Chimanga, Jonathan Fouanani, Jean-Claude Siala et Willem Lungamba. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.